Radio Classique et votre journée devient plus belle.
Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le mardi 12 mai, 7h30.
La matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand.
Voilà, bonjour à vous tous et en plus évidemment de ce que nous avons annoncé tout à l'heure avec Dimitri, nous parlerons aussi un peu de politique car les spéculations continuent sur le couple entre formé par Emmanuel Macron et le Premier ministre Édouard Philippe. Nous serons donc avec Cécile Cornudet et Philippe Tesson au lendemain d'ailleurs d'une information judiciaire ouverte contre Valéry Giscard d'Estaing pour harcèlement sexuel, c'est l'autre sujet. Mais nous sommes donc le jour 2 du déconfinement, mon cher Marc Bourreau, bonjour.
Bonjour Guillaume.
Et déjà une certitude, il semblerait que le masque dont tout le monde a besoin reste une denrée rare.
Oui, il fait partie de nos vies, Guillaume, pour les mois qui viennent, dans la rue, dans les commerces, dans les transports où il est désormais obligatoire. Le gouvernement en promettait 200 millions par semaine de masques, mais la réalité est bien différente, Baptiste Gabory. Obtenir un masque, ça tourne parfois à une grande chasse à l'or blanc.
Oui, comme dans cette pharmacie du 13e arrondissement de Paris.
Moi, actuellement, j'en ai plus. J'en ai eu samedi, j'en avais 500, mais tout a été vendu très rapidement.
Le pharmacien Yorick Berger se démène.
On en commande dès qu'on peut, on relance nos fournisseurs.
Mais les livraisons arrivent au compte-gouttes et la demande explose. Ces derniers jours, une personne sur deux qui entre dans sa pharmacie demande un masque. Il attend une nouvelle livraison aujourd'hui, 4000 masques en tissu.
Les 4000 ne seront pas uniquement pour moi, ils seront aussi pour mes confrères. Donc moi, j'en utiliserai 2000 à peu près, oui.
De nombreuses mairies ont également commandé des millions de masques pour ensuite les distribuer à leurs administrés. Mais là aussi, ce n'est pas toujours très simple, comme à Saint-Dizier dans la Haute-Marne, où la maire Elisabeth Robert de Haut avait commandé 20 000 masques il y a 3 semaines.
Nous avons trouvé un fournisseur français qui nous a demandé un acompte et cet acompte les engageait à nous fournir pour le 15 mai. Et malheureusement, ce fournisseur n'a pas tenu ses délais.
Livraison attendue début juin, la mairie a donc commandé en urgence de nouveaux masques reçus dimanche. La distribution à Saint-Dizier commencera demain.
Le reportage de Baptiste Gabory, une reprise masquée hier, notamment dans les transports en commun, respectée par 95% des voyageurs selon la SNCF et la RATP. À noter que l'attestation employeur est désormais obligatoire dès ce matin aux heures de pointe. Le Conseil constitutionnel a validé hier soir le projet de loi sur l'état d'urgence sanitaire. Par ailleurs, la limitation des déplacements à 100 km de chez soi entre aussi en vigueur. Les sages censurent toutefois des éléments liés au traçage et à l'isolement des malades.
Voilà, il y a en tout cas une activité qui a bien marché hier, c'est la réouverture des coiffeurs. Le traçage et le diagnostic, c'est justement l'une des stratégies de l'exécutif pour réussir son déconfinement.
Et pour cela, Guillaume, le gouvernement table sur 700 000 tests par semaine. 700 000, de quoi dépister les malades potentiels et 25 autres personnes qui auraient croisé sa route. Mais un tel rendement a-t-il vraiment réalisable, Rémi Pfister?
Le docteur Xavier Palette, biologiste au centre hospitalier de l'Essonne, souhaiterait que son laboratoire puisse être recensé comme un centre de prélèvement pour les tests. Problème, l'autorisation et les réactifs ne sont toujours pas là.
Tout est fait à la va-vite. Certains d'entre nous qui attendent encore les réactifs. Il y a toujours des problèmes de prélèvement, c'est-à-dire les écouvillons. C'est pas encore complètement maîtrisé, si vous voulez.
Des remontées du nombre de tests également incomplètes. La plateforme créée pour que les laboratoires les recensent ne fonctionne pas encore dans toutes les régions. Pour François Blanchecotte, du syndicat des biologistes, ce chiffre de 700 000 est de toute façon illusoire, ne serait-ce que par manque de patients à tester.
Pour avoir 700 000 tests par semaine, il faut qu'il y ait 3 000 patients nouveaux par jour. C'est une hypothèse d'école dans laquelle on s'est fixé la ligne d'horizon à 700 000 parce qu'on voulait dépister. Mais ce dépistage n'a lieu que 7 jours après le contact que vous auriez eu avec ce patient positif. Donc ça veut dire que cette semaine, on n'aura rien.
Difficile donc pour le moment d'y voir clair, d'autant que actuellement un tiers des données des laboratoires privés ne sont pas remontées vers les agences régionales. Selon les syndicats, la France n'aurait pour le moment jamais dépassé les 250 000 tests par semaine.
Rémi Pfister, le bilan lui ce matin est de 263 morts supplémentaires. 64 patients ont quitté les services de réanimation. Un peu plus de 26 000 décès enregistrés depuis le début de l'épidémie. Le déconfinement J+1 et ses premières dernières restrictions à Paris. L'alcool est désormais interdit le long des berges sur ordre de la préfecture de police. Hier soir, les forces de l'ordre ont évacué le canal Saint-Martin, rempli de Parisiens. Ils étaient venus en petits groupes boire une bière ou pique-niquer sans toujours respecter les distances barrières.
Alors ce mardi, Marc, est une nouvelle journée décisive pour l'exécutif. Certains élèves retrouvent les bancs de l'école primaire.
Une rentrée à minima pour environ 1,5 million d'enfants. Rentrée progressive tout au long de la semaine avec une priorité aux élèves dont les parents exercent un métier indispensable, notamment les enfants de soignants. Et pour eux, c'est parfois la double peine. Après un confinement difficile, des parents sur le front exténués, certains seront d'en plus mis à l'écart de leurs camarades. Décision mise noir sur blanc dans les académies de Toulouse ou encore de Nice. Une situation indigne, écrit dans une tribune le docteur Lamia Kerjana. C'est la présidente du syndicat des jeunes médecins d'Île-de-France.
Il a été décidé en fait que les enfants de soignants et des publics dits prioritaires allaient rester ensemble, soit dans des écoles dédiées, soit dans des classes à part, avec des moments de récréation qui seraient à part des autres élèves. On a l'impression vraiment que dans ces cas-là, les enfants de soignants ne sont pas normaux, puisqu'ils doivent être mis à l'écart. Que va penser un enfant qui se retrouve à l'écart juste parce que son papa et ou sa maman travaillent à l'hôpital, alors que jusqu'à maintenant, ses parents étaient considérés comme des héros parce qu'ils mettaient leur santé en danger pour être au service des autres. C'est quand même très dérangeant.
Des propos recueillis par Sophie Echen. L'État vole au secours du monde viticole durement frappé par la crise. Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, annonce des exonérations de cotisations sociales. Ça concerne les TPE, les PME. Parallèlement, c'est un plan Marshall qui se profile pour le secteur du tourisme. Actuellement en panne sèche, la Caisse des dépôts prévoit un chèque d'1,3 milliard d'euros.
Voilà, les sommes sont de plus en plus colossales. On se demande qui va finir par financer tout ça. Vous trouverez d'ailleurs dans le Figaro un excellent papier de Renaud Girard sur la situation européenne qui dit qu'en gros, attention, les Allemands ne finiront pas par payer ou ne veulent absolument pas entendre parler de payer l'addition pour tout le monde à la fin de cette affaire. Les entreprises vont en revanche mettre la main à la poche si elles ont recours au chômage partiel. Nous parlerons de la situation des patrons tout à l'heure avec Dimitri.
Et ce sera dès le 1er juin. Ce seront elles, ces entreprises, et non à l'État de financer progressivement le dispositif. L'objectif, c'est toujours d'inciter à la reprise d'activité. C'est aussi de soulager les caisses de l'UNEDIC, car les compteurs s'affolent. Le chômage partiel coûte 1 milliard d'euros par semaine. Un très mauvais coup pour l'assurance chômage dont les comptes devaient repasser au vert l'an prochain. La situation, Céline Cajoli, s'inquiète sérieusement les partenaires sociaux.
Ils ont fait les comptes. À la fin du mois, la crise leur aura déjà coûté 47 milliards d'euros entre le chômage partiel, la prolongation des droits des intermittents et les indemnités pour garde d'enfants. Une somme colossale qui pourrait atteindre les 60 milliards à la fin de l'année. Et même si personne ne remet en cause l'intervention du gouvernement, ils craignent de devenir les banquiers de l'État sans autre perspective qu'une augmentation de la dette. Une crainte d'autant plus grave que, conséquence de la crise, le chômage risque d'augmenter. Et comme jusqu'à présent, les 39 milliards d'euros de cotisations suffisaient juste à indemniser les demandeurs d'emploi, ils se demandent comment absorber un nouveau choc. C'est ce qui pousse les partenaires sociaux à demander une discussion sur l'assurance chômage ainsi que l'abandon de la deuxième partie de la réforme prévue en septembre. Une idée pour l'instant écartée par Muriel Pénicaud.
Céline Cajolis, eux réclament une relance européenne. Les patronats français, allemands et italiens attendent une réponse majeure de Bruxelles et des gouvernements. Un plan sur 5 ans qui pourrait atteindre 5% du PIB. Appel à lire dans une tribune du président du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux, dans les colonnes des Échos ce matin. Enfin, à l'étranger, déconfinement à pas compter. Masque et gants de rigueur aujourd'hui en Russie. Sortie progressive du confinement dans certaines régions. Au Royaume-Uni, reprise de l'activité en 3 étapes dans les semaines qui viennent. Dès demain, les Britanniques pourront sortir de chez eux librement. Enfin, le feuilleton Covid-19 se poursuit à la Maison-Blanche. Aux États-Unis, Donald Trump limite désormais les contacts avec son vice-président. Les médias américains, Guillaume, se demandent d'ailleurs si Mike Pence ne serait pas actuellement en quarantaine.
Voilà, nous allons voir ça dans un instant. Merci mille fois, Marc, puisque nous serons en direct de Washington. Avec donc notre correspondante Laurence Haïm, la voici, les spécialistes.